Alors, soulagement là, du côté de l'Euro. Christian Eriksen transféré à l'hôpital. Lui qui a eu un malaise sur le terrain dans le match entre le Danemark et la Finlande. Et il semble que ce soit de bonnes nouvelles. Pour en discuter, on reçoit tout de suite notre analyste soccer, Vandril Lefebvre. Salut, Vandril.
Salut, Jérémy.
Et l'animateur du podcast IMFC Radio. Salut, Gavino De Falco.
Salut, Philo.
Alors, messieurs, une première réaction à chaud. Vandril, je ne sais pas si tu as déjà vécu une telle situation, peut-être dans un moment de chaleur accablante sur un terrain. On ne s'attend jamais à voir des athlètes de haute pointe vivre des moments comme cela, mais quelle a été ta réaction et comment tu te sens maintenant de savoir que ça va quand même mieux? Là?
Écoute, sous le choc, Jérémy, là, quand on a vu ça apparaître, pour nous qui sommes de culture foot, ça nous a évoqué... tout de suite certains cas qui ont eu lieu dans les 15-20 dernières années, dont on a tous un souvenir. Je pense à Marie-Vivien Fouet, le Camerounais en 2003, un peu similaire, qui s'est effondré au milieu du terrain, malaise cardiaque, puis qui est décédé sous nos yeux. Je sais qu'en 2007 aussi, il y avait eu un joueur de Valence, Antonio Puerta, la même chose. Et puis, ce qui n'était pas rassurant, c'est en fait, c'est que indépendamment du fait qu'on le réanime ou qu'on ne le réanime pas, moi je me souviens du cas d'Antonio Puerta, on avait réussi à le réanimer. Il était sorti même en marchant du terrain avec des soigneurs. Mais une heure plus tard, on nous annonçait qu'il était décédé dans le chemin vers l'hôpital. Donc, moi, je suis encore inquiet jusqu'à preuve du contraire. On a beau nous dire que c'est stabilisé, je suis content de l'apprendre, mais on est déstabilisé là. C'est horrible de voir ça. Son épouse aussi au bord du terrain, c'est vraiment pas agréable.
Gavino, on essaye de suivre du mieux qu'on peut avec les médias sociaux, les quelques images, les photos et tout ça. Pas évident, mais raconte-nous un peu là comment ça s'est passé à partir du moment où il semble s'évanouir et la nouvelle qu'on vient d'apprendre présentement là, comme quoi ça irait quand même mieux là.
Ben écoute, c'est vraiment bizarre comment ça s'est passé parce que c'était 0-0 en première demi et là tout d'un coup, une action anodine à la 42e minute et on a vu Eriksen tout simplement s'écrouler sur le sol. Et là, excusez-moi l'expression, mais plus de son, plus d'image. On a vu tout de suite les joueurs demander de l'aide médicale parce que ça allait pas bien. Les joueurs du Danemark, toute la gravité de ce qui se passait, ont fait un cercle pour garder une certaine intimité pour qu'on puisse administrer les premiers soins. C'est sûr qu'on regarde ça et c'est bouleversant. J'en parle, ça fait une demi-heure de ça. Et là, présentement, c'est sûr qu'avec le tweet officiel de l'UEFA qui vient d'apparaître sur les réseaux sociaux, on mentionne que Christian Eriksen a été transféré à l'hôpital et a été stabilisé. Est-ce qu'il est dans un état stable? Je ne sais pas. On va attendre d'autres informations, mais c'est sûr que ça laisse froid dans le dos des choses comme ça. C'est tout simplement épouvantable. Écoute, un jeune homme de 29 ans dans la fleur de l'âge, un athlète incroyable, et on voit ça. Selon moi, ça ressemble à un arrêt là, vasculaire, un arrêt cardiaque là, du côté de Christian Eriksen. On a fait le mieux qu'on pouvait du côté des premiers soins, et tant mieux si on a stabilisé. Mais écoute, là, ça, c'est des images qui donne froid dans le dos, Philo.
Écoute, on a vu des membres du CF Montréal, on a vu notamment Lassie Lapalainen qui était sur le banc, Jukka Raitala, l'ancien capitaine de l'Impact aussi, réagir, il était en pleurs sur le bord du terrain, et on parle bien sûr d'un joueur de l'autre équipe, donc tout le monde semblait sous le choc. Vandril, c'est pas réaliste de penser qu'on peut reprendre ce match-là aujourd'hui, là.
Ça me paraît difficile. Encore une fois, malheureusement, il y a des enjeux particuliers au niveau de l'UEFA. Comment on fait pour reprendre ce match si on le joue pas aujourd'hui? Moi, je serais d'avis qu'il faut tout simplement l'arrêter aujourd'hui et puis réfléchir à plus tard.
Ouais.
Parce que, écoute, tous, et je suis convaincu que même tous sur le terrain, ils ont cru voir leur adversaire, leur coéquipier, leur mari, leur joueur s'éteindre sous leurs yeux. Donc, ouais. À partir de là, comment jouer un match, comment revenir à juste du bonheur, jouer au football aujourd'hui, ça me paraît difficile.
Ouais. Ben, Gavino, revenons un peu sur le match de l'Italie. Hier, oui. Victoire de 3-0. Ils ont fait le travail. Ça n'a pas été évident. En première demi, plusieurs tirs au filet, mais on avait de la difficulté à déjouer les Turcs là, qui avaient bien stationné l'autobus. As-tu été convaincu par la performance des Italiens?
Ben, je pense que oui. Écoute, du côté de l'Italie, là, ça fait maintenant 28 matchs de suite qu'on n'a pas subi la défaite avec tous les matchs de qualification depuis 3 ans. Oublie pas que depuis 2018, là, bon, l'Italie ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde en Russie. Il y a eu des têtes qui ont roulé à la Fédération italienne. On disait que ce, ce, cette équipe-là, c'était trop un style hermétique, axé sur la défensive, axé sur la contre-attaque. On a fait table rase. On a nommé un nouvel entraîneur, un nouveau sélectionneur qui, lui, il prône le jeu direct avec des joueurs offensifs. Et tant mieux, ça a porté fruit hier, une belle victoire de 3-0. Mais avant de s'emballer, on va attendre le deuxième et troisième match qui aura lieu contre la Suisse et les Pays de Galles. Mais j'ai vraiment aimé la première représentation de l'Italie hier. Là.
Bon, Vandril, il y a l'Euro, mais il y a aussi des matchs de qualification pour la Coupe du Monde présentement. On en parle pas assez, mais le Canada joue cet après-midi à 17h à Port-au-Prince en Haïti. Un match extrêmement important pour en vue d'une qualification possible pour la Coupe du Monde 2022. On parle ici d'une série de matchs aller-retour. Donc, le match retour aura lieu à Chicago mardi. As-tu l'impression que le Canada a ce qu'il faut pour aller faire le travail dès le match numéro 1 à Port-au-Prince? Il faut comprendre que Dawkins Nazon du côté de l'Haïti est un cas incertain pour ce match-là. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Comment vois-tu ce duel?
Oui, Jérémy, absolument. Ils ont les armes. Tu te souviens de notre conversation de la semaine dernière sur le Canada, son évolution, puis sa capacité à aller à la Coupe du Monde. Sur papier, tous les ingrédients sont au rendez-vous. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là, qui sont habitués à gagner maintenant, qui ont gagné dans des clubs européens, qui font que le Canada devient une menace en CONCACAF, est-ce qu'ils vont être capables d'entraîner le groupe vers le haut, de tirer le groupe vers le haut dans une double confrontation capitale dans ce processus de qualification? Parce qu'on se souvient, Jérémy, la dernière fois que le Canada a affronté Haïti dans un match à compétition, ça s'est pas très bien passé pour nos joueurs. Ils ont encaissé la défaite en Gold Cup.
Oui, absolument.
Donc, ça va être une bataille, ça c'est sûr et certain. Il faut que le Canada soit prêt.
Oui, écoutez, on annonce 33 degrés, 37 avec le facteur humidex à Port-au-Prince aujourd'hui. Donc, il va faire très chaud. Mais Gavino, dans ce qu'on a entendu des propos des joueurs de l'équipe nationale canadienne cette semaine, ils se disaient très heureux de savoir qu'ils auraient l'opportunité d'affronter Haïti. Ils veulent venger cette défaite à la Gold Cup d'il y a quelques années. Mais là, ça passe ou ça casse. Et c'est plate à dire, mais il y a un de ces deux pays-là qui ne pourra pas participer au dernier tournoi octagonal en vue de la Coupe du Monde. Il y en a un des deux qui va sauter dès mardi. Là.
Ben, c'est sûr que c'est dommage, mais là, du côté du Canada, tous les ingrédients sont là pour avoir une bonne performance. Parce qu'il ne faut pas se sortir de ces deux mini-matchs-là contre Haïti. Il faut vraiment aller chercher un bon résultat. Tu sais, je ne peux pas croire qu'avec toutes les qualités qu'on a, avec Alphonso Davies, qui est un joueur du Bayern de Munich qui a dominé en 2020, en 2021, même chose avec Jonathan David, 13 buts cette année en Première Ligue française. Ces deux joueurs-là ont décidé dans le dernier match de cette semaine contre le Suriname. Quand c'était terminé. Donnez-nous le ballon, il va arriver des choses. Et bon, on sait que Jonathan David a marqué un tour de chapeau cette semaine contre le Suriname, un franco-ontarien qui fait flèche de tout bois. Non, c'est sûr que on a souvent utilisé l'expression la nacho-dépendance avec l'Impact de Montréal ou le CF Montréal. Et maintenant, le Canada, c'est la Davies ou la David-dépendance. Tant aussi longtemps que ces deux joueurs-là vont se surpasser, c'est sûr qu'on va avoir des chances. Également, il faut surveiller Samuel Piette. Est-ce qu'il va recevoir un départ aujourd'hui par l'entraîneur John Erdman et Zachary Brouillard également, qui a très bien fait dans l'avant-dernier match contre Aruba du côté du CF Montréal.
Donc ça, c'est à suivre à partir de 17h aujourd'hui, Canada-Haïti, à ne pas manquer. Vandril, un petit commentaire sur le départ de Louis Binks du CF Montréal. Il n'aura pas joué de match cette saison à cause de sa blessure. Une seule année complète avec l'Impact de Montréal. On aurait aimé ça pouvoir profiter de lui pour encore un petit bout de temps. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'on laisse partir un joueur pour Bologne à ce stade-ci de l'année, alors qu'on sait que Bologne ne disputera pas de match avant au moins deux mois, là?
Oui, mais écoute, je pense que c'est le déphasage des calendriers entre la MLS et les championnats européens, en l'occurrence le championnat italien. Je pense qu'on veut donner l'occasion surtout à Louis Binks, après une blessure quand même sérieuse qu'il a éloigné des terrains pendant de nombreux mois et qui a fait en sorte qu'il n'a même pas joué depuis le début de la saison.
C'est vrai.
Je pense qu'on veut lui donner la chance d'avoir une préparation physique complète avec son nouveau club, avec Bologne, et s'assurer qu'en fait, il vient dans cette saison de championnat italien en ayant tous les outils physiques en main pour performer et pas prendre de risques avant de le faire revenir au jeu trop tôt, dans des conditions difficiles, la chaleur, on le sait, en MLS. Moi, je pense qu'on veut lui dire, regarde, on va t'accompagner, on croit en toi, t'es un jeune joueur d'avenir pour ce club, ben, tu vas faire la prépa physique au complet avec nous.
Vandril Lefebvre, Gavino de Falco, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et bon soccer et on se reparle sous peu.
Merci.
Merci, Philo.
Salut. Petite pause et ensuite, on va parler de notre ami Derek Aucoin. Pourquoi? Parce que le journaliste Benoît Rioux était présent hier dans un parc de Boisbriand où on a procédé à une cérémonie officielle pour renommer le parc et le terrain de baseball au nom de notre ancien collègue Derek Aucoin. Donc, on parle à Benoît Rioux. Retour de ceci.